Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce 17e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Une mobilisation qui n'a jamais été aussi basse selon le ministère de l'Intérieur, alors que les Gilets jaunes annoncent des manifestations de grande ampleur pour samedi prochain. Peuvent mieux faire si 91% des Français pensent que les journalistes sont utiles, voire indispensables à la démocratie. Ils estiment aussi que ces mêmes journalistes ont maltraité ce mouvement des Gilets jaunes. C'est le résultat d'une étude Via Voice réalisée dans le cadre des Assises du journalisme de Tours. À l'étranger, mobilisation anti-Bouteflika et vacances anticipées pour les étudiants en Algérie. Progression maison par maison à Baghouz en Syrie pour déloger les derniers djihadistes. La situation en Algérie que vous aborderez en compagnie de vos invités à 8h20, Eric Delvaux.
Oui, la sociologue Ferielle Lalami, spécialiste des mouvements sociaux et des femmes au Maghreb. Également le journaliste Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, au quotidien d'Oran et aussi sur le site Lorient 21.
À la fin de ce journal, Stéphane Capon nous dira tout sur ce film documentaire consacré à la chorégraphe Maggie Marin. Et puis à 8h10, Laetitia Bernard reviendra dans le journal des sports sur l'écrasante victoire du 15 de France féminin sur les Irlandaises, battue 47-17 hier soir dans le cadre du tournoi des Six Nations. Un exploit que les hommes aimeraient bien rééditer cet après-midi, mais ce n'est pas gagné.
France Inter.
La 17e journée d'action des Gilets jaunes et une mobilisation en baisse, si l'on en croit les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, la plus basse depuis le début du mouvement. Selon ses estimations, 28 600 personnes seraient descendues hier dans les rues en France, contre 39 300 le week-end dernier. Un essoufflement qui intervient la veille de la fin du grand débat national, et alors que ces mêmes Gilets jaunes annoncent une mobilisation de grande ampleur pour samedi prochain, pour les 4 mois de leur mouvement et la fin de ce grand débat. Une mobilisation et un grand débat qui étaient hier au cœur des discussions dans les manifestations parisiennes, qui auraient réuni 3000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur toujours. Manifestation suivie par Olivia Chandiou.
Pas question de lâcher l'affaire pour les manifestants présents dans le cortège parisien. Luc, 67 ans, ne quitte plus son gilet jaune et il n'est pas prêt de le faire. Car selon lui, le grand débat national qui se termine vendredi prochain ne réglera rien.
Le grand débat national, non, au contraire. Parce que personne n'en attend rien. Et les quelques personnes qui, à un moment donné, me disaient on va voir, on verra peut-être. Maintenant, ils disent on a tout vu. Donc c'est de l'enfumage.
Alors, comment va évoluer la mobilisation des Gilets jaunes ? Patricia se pose la question.
C'est complexe. À la fois, ça peut effectivement s'essouffler parce que c'est fatigant et parce qu'il faut y être tous les samedis, parce que c'est une vraie conviction. Il faut être convaincu, en fait, au fond de soi. Donc, est-ce que le mouvement va durer ? Moi, j'y crois. On lâche rien. C'est ça qui est important.
Salvatore est un nouveau Gilet jaune. Ce n'est que son deuxième samedi de mobilisation, mais il n'est pas prêt de s'arrêter.
Au début, je trouvais ça un petit peu précipité et pas très organisé. Mais je suis très content finalement de voir un mouvement plurirevendicatif. Finalement, dans tout ce peuple qui passe, il y a une grande aspiration au bonheur, à la joie, à la fraternité, à vivre ensemble.
Salvatore, Luc, Patricia le promettent. Samedi prochain, ils seront de retour, gilets jaunes sur le dos, dans les rues de Paris.
Olivia Chandiou, un 17e samedi d'action qui s'est plutôt déroulé dans le calme, exception faite de quelques échauffourées à Paris justement, mais aussi à Nantes, Bordeaux et Lyon. Quant au grand débat lancé en France pour répondre à cette crise des Gilets jaunes et dont les conclusions se précisent, la deuxième phase devrait se conclure le mois prochain par des propositions concrètes, selon Sébastien Lecornu. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministre des Collectivités Territoriales dans les colonnes du JDD, ajoutant, je le cite, « le temps des propositions et de l'action se déploiera jusqu'à l'été ». Fin de citation.
Un dossier des Gilets jaunes et le traitement qui en est fait dans les médias, tout ça est au cœur d'une étude réalisée par l'Institut Via Voice.
Une étude réalisée du 11 au 18 février pour le compte de Radio France, de France Télévisions, de France Média Monde et du Journal du Dimanche sur ce que pensent les Français des journalistes et du traitement de l'information qu'ils en attendent. Étude d'où il ressort, Béatrice Duguay, que si les journalistes sont indispensables dans une société démocratique, ils ne sont pas exempts de certaines critiques.
Si les journalistes sont utiles, voire indispensables aux yeux des personnes qui ont répondu à l'enquête, c'est par besoin croissant de vérification face aux rumeurs, aux fausses informations, à la propagande qui désinforme. En revanche, elles ont du mal, 53% des sondés, à considérer qu'une information de qualité, ça se paie, que ce travail-là n'est pas gratuit. En revanche aussi, les 18-34 ans sont de plus en plus nombreux à considérer qu'ils peuvent faire confiance aux réseaux sociaux pour s'informer. Au rayon des critiques formulées dans cette étude, les médias sont accusés de privilégier les informations sensationnelles ou la violence, de tous raconter la même chose et de ne pas donner la parole de manière équitable. Leur indépendance est mise à mal, contenu influencé par les actionnaires ou par les personnalités politiques pour plus des deux tiers des sondés. Mais ces majorités cachent les contradictions, en fait. Exemple avec le cas particulier des Gilets jaunes, mal couvert pour 53% des personnes interrogées, mais parce que les médias ont soit donné trop la parole aux Gilets jaunes, soit pas assez. Vision de société et opinions politiques divergentes qui influencent le rapport à la presse.
Autre rassemblement hier samedi, plus de 4000 personnes ont tenu à rendre hommage hier à Julie Dulib, cette jeune femme assassinée la semaine dernière par son ancien compagnon en Corse. Rassemblements qui ont eu lieu à Lille-Rousse, en Haute-Corse et dans son village natal de Seine-et-Marne. Julie Dulib est la 30e femme à être victime d'un féminicide en France depuis le début de l'année.
L'actualité à l'étranger, ce sont bien sûr les manifestations qui se poursuivent pour demander à Abdelaziz Bouteflika de retirer sa 5e candidature à la présidentielle algérienne. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la situation à Baghouz, en Syrie.
Baghouz, où les forces kurdes et démocratiques syriennes progressent maison par maison pour neutraliser les derniers combattants de Daesh. Une progression ralentie toute la semaine dernière par la présence de civils à l'intérieur de cette dernière enclave. Le reportage dans la région de Baghouz de notre envoyé spécial Aurélien Colli.
Une route parsemée de cratères qui témoigne des frappes aériennes, des carcasses de véhicules brûlés, des maisons éventrées, des murs criblés de balles. Le paysage de Baghouz n'est plus que destruction et désolation. La situation ici est encore confuse, mais on a gagné, résume le commandant Youssef, perché sur le toit d'une habitation qui a résisté. D'après les civils qui sont partis, ils sont encore à peu près 2000 combattants à l'intérieur, explique ce chef de brigade, en observant l'enclave des djihadistes à quelques centaines de mètres. Ils utilisent des tunnels pour se cacher le jour, mais ils sont affamés. Quand ils lancent des opérations, c'est juste pour essayer de récupérer de la nourriture, poursuit l'homme d'une cinquantaine d'années, avant de soulever le problème des civils, plusieurs milliers encore à l'intérieur selon lui, qui n'a pas beaucoup de compassion pour les familles de djihadistes. On les a prévenus, on leur a demandé de sortir, s'ils refusent, on n'aura pas le choix pour en terminer avec Daesh, explique le commandant. Plus inquiet en revanche pour d'autres civils, ceux qui servent de boucliers aux djihadistes. Entre eux et nous, ils ont tout miné pour nous empêcher d'aller les récupérer, explique-t-il. Cela représente à peine 1 km². On pourrait en finir en une heure, mais on a les mains liées par ces femmes et ces enfants, conclut le soldat des forces démocratiques syriennes. Baghouz, Aurélien Colli, France Inter.
Et puis en Algérie, donc, le pouvoir a décidé de vider les universités. Le ministère de l'Enseignement supérieur a en effet annoncé hier que les vacances universitaires débuteraient ce dimanche, soit 10 jours plus tôt que la date prévue. Les étudiants très présents dans les manifestations anti-Bouteflika bénéficieront donc d'un mois de vacances, ceci dans le but, bien sûr, de les pousser à rentrer chez eux loin de la rue. Retour en France sous l'appel du Petit Victor pour la protection de la biodiversité des espèces, appel que vous avez peut-être entendu hier dans ce même journal de 8h, a visiblement trouvé écho. 1400 personnes ont en effet répondu à cet appel et sont allées défiler hier après-midi dans le centre de Metz. Une manifestation appuyée par de nombreuses associations. Une démarche dans la lignée du mouvement lancé par la jeune suédoise Greta Thunberg, cette adolescente de 13 ans qui appelle les jeunes à se mobiliser pour le climat.
Et un film, Serge, pour refermer votre journal, un film sur l'une des plus grandes chorégraphes françaises.
Il s'agit en fait d'un film documentaire consacré à Maggie Marin, intitulé Maggie Marin, l'urgence d'agir. Une plongée dans le travail d'une chorégraphe engagée, signée de son fils, David Mambouche. Stéphane Capron.
Le fil rouge du documentaire, c'est Maybe, le chef-d'œuvre de Maggie Marin qui va bientôt s'approcher des 800 représentations, un record pour un spectacle de danse. Maybe, c'est l'histoire de la rencontre entre l'univers de Maggie Marin et celui de Beckett. Avec Maybe, la chorégraphe fait table rase en 81 de tout ce qu'elle a appris durant sa formation, notamment auprès de Maurice Béjart. La lecture des textes de Beckett lui inspire des corps fissurés sur scène. Maggie Marin rejette à tout jamais la beauté telle qu'on la voit dans la danse contemporaine.
Des ballets ou des pièces qui ne parlent que de corps jeunes, compétitifs, beaux, je trouve ça d'une violence inouïe par rapport à socialement. Enfin, je trouve ça d'une violence inouïe que la danse, ça soit ça, quoi.
Maggie Marin ose tout, quitte à se faire détester. Elle se souvient dans le documentaire des empoignades des spectateurs lors de la création de certains de ses spectacles. Elle en rit avec son fils, véritable complice. C'est aussi un hommage à sa mère qui a fui le franquisme. Maggie Marin sait d'où elle vient et lorsqu'elle installe Ramdam, son centre d'art dans la banlieue de Lyon, c'est pour conserver un pied dans la réalité de la société. Ces pièces témoignent du fracas du monde, un engagement formidablement bien raconté dans ce documentaire.
Maybe, l'une des pièces chorégraphiques mythiques de Maggie Marin, qui est actuellement à l'affiche de l'espace Cardin ou du théâtre de la ville de Paris jusqu'à mardi prochain. C'est la fin de ce journal. Je vous quitte sur un pas de danse et vous laisse en compagnie de Patricia Martin et Eric Delvaux.
Et encore, vous ne m'avez pas vu en tutu, ça vaut le détour. C'était le journal de Serge
Je
Martin.
Confirme.